BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et on consacre justement à l'avenir 25 minutes chaque fin de semaine, le vendredi, à l'avenir et au blockchain qui en contiennent une fraction. Bienvenue à nos experts et à nos pros des cryptos. Donc ils sont là, ils viennent de s'installer. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Experte crypto indépendante. Owen Simonin nous rejoint aussi. Bonjour Owen.
Bonjour.
Bienvenue, votre chaîne YouTube Asher et vous êtes à la tête de Meria. Vincent Bois nous appelle depuis IG. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Super séance sur les indices actions. Qu'en est-il sur les cryptos, peut-être en démarrant par le Bitcoin?
Alors, en effet, c'est vrai que les actions profitent beaucoup plus de cette euphorie. Pour le moment, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont plutôt attentistes, plutôt en baisse, alors que nous avons une forte accélération depuis quelques séances. Et puis, ce rebond en avis ce matin a permis justement de ne pas accélérer à la baisse. Donc, perspective plutôt d'aller chercher un peu plus bas, mais les indices qui se maintiennent permettraient probablement peut-être au Bitcoin d'aller chercher le haut de ce canal, cette hésitation que nous avons sous les 28 100 $. Donc il faut aller chercher peut-être grâce, comme je le dis, aux indices traditionnels, les 28 100 $. Au-delà de ce niveau, cela permettrait d'invalider un peu cette tension de court terme et d'aller chercher les 30 000 $. Mais pour le moment, c'est plutôt toujours cette perspective d'aller chercher un peu plus bas, sans accélération importante, mais d'aller chercher sous les 26 000 et aller chercher notre seuil important des 25 000 qui, comme je le rappelle, on le dit souvent, permettrait peut-être de valider cette tendance haussière en se maintenant sur nos 25 000 $. Donc, hésitation, attention à la cassure des 26 500 qui pourrait amener justement à une accélération plus importante.
Voilà quelques seuils techniques qui ne constituent pas des conseils d'investissement. On regarde le Bitcoin qui progresse quand même aujourd'hui, Vincent, mais l'Ether progresse sur la journée d'aujourd'hui. Oui, la journée d'aujourd'hui, on va quand même le dire, c'est trop tard, de toute façon, c'est déjà dit. Donc l'Ether progresse aujourd'hui deux fois plus que Bitcoin. Est-ce qu'on a une surperformance en train de se construire à vos yeux sur l'Ether face au Bitcoin?
Alors, on en parlait déjà, l'Ether, au niveau technique, en tout cas, se présente un peu mieux. Nous avions le maintien au-delà de différents niveaux. On était allé chercher ce seuil technique des 1730 et puis un maintien au-delà des 1 800 $. Mais de la même façon, comme sur le Bitcoin, c'est 28 000 qui bloque la tendance, on a un retour à court terme sous les 1890 sur l'Ether. Donc, même si cela se présente mieux, c'est vrai, au niveau technique, il faut se maintenir, retourner au-delà des 1890, peut-être aidé par une superbe séance aux États-Unis encore, pourrait permettre au-delà des 1890 et donc d'aller chercher ensuite les 2 000 $, 2 050 $. Donc techniquement, se présente mieux, mais c'est toujours une hésitation avec ce range. Il va falloir se décider à court terme.
Merci Vincent de nous avoir accompagnés. Vincent Bois en direct depuis les bureaux d'IG. Owen, on est bien là, à quelques heures du week-end. Vous avez pris le soleil dans la journée.
Il fait beau. Un petit peu.
Et on va parler de nuages, en l'occurrence sur Binance. Le plus gros exchange mondial qu'on évoque souvent dans cette émission vient de vivre une nouvelle semaine plutôt mouvementée. Un certain nombre de tokens ne sont plus disponibles sur Binance pour le trading. Pourquoi est-ce que Binance a décidé de suspendre le trading de ces tokens?
Alors, il s'agit d'obligations réglementaires, puisqu'il s'agit de tokens qui sont liés à ce qu'on appelle la privacy, donc la vie privée. Et ce sont des crypto-monnaies qui ont par défaut ou qui ont des fonctions activables qui permettent de ne pas remonter jusqu'à son propriétaire. Dans le cadre des plateformes centralisées, la plateforme se doit, pour être conforme, en France en tout cas, de respecter toutes les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, donc toutes les notions LCBFT. Et pour le coup, la plateforme se doit de connaître, par exemple, l'utilisation à qui elle vend de la crypto-monnaie, vérifier l'origine des fonds, et dans le cadre de certaines crypto-monnaies plus ou moins anonymisables, et je dis bien anonymisables et pas anonymisées, parce que parfois c'est actif, c'est une option, elle se doit d'avoir un contrôle de vigilance renforcé. Alors, c'est pas une obligation absolue d'interdire ces actifs-là. Il existe par exemple des solutions qui permettent à l'utilisateur de les acheter sur la plateforme et de pas les retirer pour être bel et bien certain de l'origine de ces fonds et de son usage. Car mine de rien, les gens peuvent vouloir les acheter simplement pour le côté spéculatif et non pas anonyme de ces fonctions. En attendant, Binance serre la vis et se sépare des plus grosses et des plus connues, comme encore le Dash, le Zen, le Firo, par exemple.
Binance qui serre la vis et des nuages peut-être aussi pour les salariés de Binance, des témoignages qui ont d'ailleurs été ensuite confirmés apparemment par les porte-paroles de Binance, des témoignages nous parlent de licenciements en cours ou à venir. Combien de personnes, Claire, sont menacées et pourquoi Binance, la hype des cryptos, pourquoi Binance en est-il choisi de réduire ses effectifs? Pourquoi est-ce qu'on en est là?
Alors, la version officielle de Binance, c'est pas vraiment une réduction des effectifs, c'est une réaffectation des talents. En gros, ce qu'ils disent, c'est on va se séparer des personnes qui sont les moins performantes ou qui correspondent le moins bien à la culture d'entreprise, et on fait ça en permanence, et c'est pas quelque chose de nouveau. Alors ça fait un peu penser à la culture, vous savez, du up or out qu'on a dans les cabinets de conseil, c'est-à-dire que soit vous êtes très performant et vous continuez d'évoluer, soit à un moment donné vous êtes plus si performant que ça et en fait on vous pousse vers la sortie. Donc c'est vraiment une culture très exigeante qui va privilégier la performance de l'entreprise plus que quelque part le bien-être de salariés qu'on pourrait placardiser et garder quand même au chaud. Donc là c'est pas le cas. Binance continue de recruter. Alors il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont se séparer de 20% des effectifs, mais ça n'a pas du tout été confirmé par l'entreprise. Donc on ne sait pas.
Ce serait une sacrée réaffectation des talents là.
Voilà, ce serait une grosse réaffectation des talents. Donc on ne sait pas exactement combien de personnes seront amenées à partir. On peut quand même constater que ces rumeurs là ont lieu en bear market, donc à une période où quand même les cours ne sont pas au beau fixe, et à une période où Binance a plutôt tendance à perdre des parts de marché. Là, ils sont repassés en dessous des 50% de parts de marché, donc ça reste de très loin le plus gros exchange. Mais ils sont plutôt dans une période, je dirais, relativement difficile, du point de vue des chiffres, en tout cas.
Oui. Après le bear market de l'an dernier, on n'est plus vraiment en bear market, là, mais...
Bon,
mais
bon, en tout cas, on n'est pas encore en bout de
non, on n'a pas retrouvé voilà. Le grand soleil. Non, mais effectivement, on n'a pas retrouvé encore le grand soleil et on est toujours dans cette phase de réajustement de chacun des acteurs de l'écosystème crypto. Et vous connaissez l'adage, not your keys, not your coins. Ceux qui investissent sur les exchanges centralisés, comme Binance, prennent le risque de perdre leur crypto, en tout cas d'en perdre le contrôle, puisqu'on les laisse stocker par un tiers. On a vu avec FTX que ça pouvait parfois se passer mal. Et Binance propose de prêter à ses clients, bien sûr, mais en imaginant garder le collatéral dans une banque. Est-ce que ça peut être une bonne idée ou est-ce qu'il s'agit juste d'un transfert de risque, Owen?
Alors, pour certains, c'est une bonne idée et il y en a qui critiquent quand même le modèle. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'intéressant dans le modèle, c'est que certains qui n'ont pas confiance aux plateformes d'exchange pourraient déposer dans certaines banques de l'argent, une caution. La banque garderait cette caution, ce n'est pas Binance qui aurait la main sur cette caution, et Binance ferait un prêt en crypto-monnaie contre la garantie qu'il y a bel et bien cette caution à la banque. Ce qui plaît là-dedans, c'est que pour beaucoup d'investisseurs, les banques sont plus fiables que les plateformes d'exchange, même si sur les réseaux sociaux, on en trouve certains qui disent qu'en ce moment, le système bancaire n'est pas plus fiable que les gros exchanges que l'on connaît. Bref, ça, c'est un débat ouvert et chacun peut se positionner. Ce qui est intéressant également, c'est que en plaçant de l'argent à la banque va générer des intérêts sur les fonds qui dorment. Et Binance, en prêtant de la crypto-monnaie, se doit d'avoir des intérêts perçus par l'utilisateur. En l'occurrence, ce serait directement l'établissement bancaire qui transmettrait les intérêts générés sur les fonds dormants à Binance, ce qui permettrait donc à l'utilisateur final d'emprunter de la crypto-monnaie et de réaliser du trading sur la plateforme Binance sans avoir à risquer son collatéral, puisqu'il ne le poserait que dans une banque. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Binance étudie réellement la question et parle de deux banques potentiellement dépositaires, Flowbank et Bankfreak, principalement en Suisse. Encore une fois...
Bankfreak, fallait l'inventer celle-là.
Je pense que... Oui. Mais pour l'instant, je pense que c'est également un appel pour voir comment certains investisseurs pourraient montrer leur intérêt pour ces solutions. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un projet, même si ça semble en intéresser plus d'un.
Et on n'arrête pas l'innovation, en l'occurrence. Les exchanges centralisés sont quand même dans la tourmente, puisqu'on évoquait ces questions autour de Binance. Là, il y a des questions beaucoup plus vitales, en l'occurrence, sur un autre acteur. Il s'agit de l'exchange Gate.io. Il y a comme un parfum de panique clair, des spéculations sur le destin, l'avenir de Gate.io. Est-ce que les gens ont raison de paniquer?
Alors c'est très symptomatique ce qui se passe depuis la chute d'FTX. Dès que des rumeurs commencent à courir, tout le monde scrute les exchanges et veut s'assurer que les exchanges sont en bonne santé, notamment en regardant le cours de leurs tokens. Et donc on peut voir assez vite des cercles vicieux se passer sur les cours de ces tokens d'exchange. Là, ce qui se passe, en fait, c'est lié à ce dont on a parlé la semaine dernière avec Multichain. Vous savez, ce protocole dont le patron a disparu. Et donc là, les rumeurs courent qu'il a été arrêté. Or, ce patron était le seul à avoir accès à un certain nombre de serveurs. Et donc, le protocole a été mis en difficulté. Et forcément, le jeton de ce protocole, le multi, a connu un vent de panique. C'est-à-dire que les gens ont essayé de le vendre. Et ce qui se passe, c'est que les gens ont notamment essayé de le vendre sur cet exchange, Gate.io. Et donc, cet exchange s'est retrouvé avec un afflux de jetons multi qui avait vocation à être vendu. Et donc, se pose la question de cet exchange qui doit sortir de la trésorerie fiat et qui se retrouve avec une trésorerie en jetons multi. Est-ce que finalement, il a des réserves suffisantes pour survivre malgré cet afflux de jetons qui, quand même, ont a priori le cours plutôt en berne. Et donc, le jeton même de cet exchange s'est lui aussi mis à chuter. Et là, forcément, vous savez ce qui se passe depuis FTX. Tout le monde se met à scruter les mouvements, les flux. Tout le monde s'improvise auditeur financier sur la blockchain. Et donc, beaucoup de gens ont commencé à douter de la fiabilité de cet exchange qui a quand même démenti en disant que tout fonctionnait normalement, que les réserves étaient suffisantes et que les retraits étaient processés de manière tout à fait classique. Donc, affaire à suivre. Mais encore une fois, c'est normal d'être vigilant. Il ne faut pas non plus céder à la panique.
Les pros des cryptos, c'est une semaine d'actu condensée en 25 minutes. Votre machine à condenser le temps et puis machine aussi à remonter le temps. Il y a 5 ans, un pari intéressant a été fait. Pari entre un Bitcoin maximaliste et un des cofondateurs d'Ethereum, Joseph Lubin. Deux mondes ont choisi de parier. Quel était ce pari, Owen, et comment les choses se terminent-elles? Non, c'est pas Owen, c'est Claire. Je vois votre regard que c'est plutôt pour Claire.
Je dois être franc que là, j'aurais botté en touche.
C'est quoi ce pari entre un Bitcoin maximaliste et un, on peut le qualifier d'Ether maximaliste, et qui a gagné finalement, Claire?
Alors, bonne question. Alors, c'est évidemment un pari assez basique qui consiste pour le Bitcoin maximaliste à dire Ethereum ne va jamais marcher et pour le cofondateur d'Ethereum à dire Ethereum va très bien marcher.
Éternelle musique.
Voilà. Et les plein d'applications vont se développer. Donc, ce pari qui a été fait il y a 5 ans, c'était, alors, si je me place du côté de Joe Lubin, c'est-à-dire de celui qui croyait en Ethereum, c'est de dire, il va y avoir au moins 5 applications décentralisées, donc des DApps avec, alors, c'était 10 000 utilisateurs quotidiens actifs et 100 000 utilisateurs mensuel actif sur une certaine durée, donc sur au moins 6 mois, sur les 12 dans les 5 ans du pari. Voilà, donc il y avait des conditions sur ce pari qui était quand même de $500,000, donc c'est pas un tout petit pari. Et donc aujourd'hui, comme on est effectivement 5 ans après, se pose la question de savoir s'il y a bien ces 5 applications décentralisées qui fonctionnent, qui ont du succès. Alors ce qu'on constate quand même, c'est que il y a un certain nombre d'applications qui regroupent ces critères de nombre d'utilisateurs actifs. C'est notamment le cas d'Uniswap, de Tether, OpenSea, Circle et l'Ether enveloppé, vous savez, le WETH. Mais évidemment, les débats font rage sur est-ce que ce sont vraiment des applications décentralisées ou pas. L'Ether enveloppé étant simplement une représentation de l'Ether sous forme de RC20 dans des smart contracts. On peut débattre du caractère vraiment décentralisé de Circle ou d'OpenSea. Voilà, donc la communauté se pose des questions sur qui a vraiment gagné le pari. Il y a d'autres applications comme MetaMask, par exemple, qui auraient pu remplir les critères, mais qui étaient un peu juste au niveau des utilisateurs quotidiens actifs. Donc voilà, grand questionnement. La vérité, c'est que les deux protagonistes du pari probablement ne vont rien payer l'un à l'autre et n'ont pas l'air d'être très réactifs quant au débat sur ce pari. Donc probablement qu'ils s'en fichent et que c'est plus une espèce de gag ou d'amusement de la communauté.
Ouais, 5 ans après. Non, mais c'est marrant, 5 ans après aussi, de voir ce que les gens et l'écosystème et les pros des cryptos, en l'occurrence, projetaient sur ce que serait l'écosystème en 2023. Voilà.
Ah, puis Internet, n'oublie pas, quand il y a un pari qui est fait, même à la va-vite, quand c'est des grosses personnalités sur le web, tout de suite, il y a de l'écho. Il y a des gens qui mettent des reminders, il y a même des fonctions sur Twitter qui disent « rappelle-moi ça dans 3 ans », en dessous d'un message. Et donc, naturellement, on en entend parler et on est assez accurate sur le sujet et les grosses questions qui reviennent finalement sur le tapis. 3 ans après, le constat... Où en sommes-nous, pardon?
Où en sera la France dans 5 ans, tiens, dans l'écosystème? Est-ce que la France sera la capitale, le hub mondial des cryptos dans 5 ans? Allez, un pari, là, et on le ressortira dans 5 ans, Claire.
Moi, je dirais qu'on a de bonnes chances, en tout cas. Au moins en Europe, on est bien parti, puisqu'on a beaucoup de talents ingénieurs, ce qui attire les entreprises. Et puis, il y a un cercle vertueux qui est en train de se créer. On a une communication attractive pour les acteurs étrangers. Maintenant, il faut aussi transformer l'essai d'un point de vue opérationnel. Et que les différentes institutions soient accueillantes pour ces acteurs-là.
Bon, ben moi je suis surpris. Oui. J'aurais dit non. Et pour le coup, je me demande si c'est pas impossible. Pourquoi ? Non, dans le sens où je trouve qu'on n'est pas assez attractif pour plein de raisons. Malgré tout, la France a la capacité de se positionner. Que ce soit un bon ou un mauvais positionnement, elle a tendance à être claire. Et je m'en rends compte de plus en plus en avançant, que ce soit à travers nos activités réglementées, mais également les autres gros acteurs à l'international et ce qui se passe aux US. L'incertitude est plus dangereuse qu'un mauvais cadre. Le fait d'avoir une incertitude et de ne pas savoir... En fait, quand on manque de visibilité, on ne fait pas de stratégie. Un entrepreneur et un investisseur a besoin de stratégie. Et pour le coup, je me rends compte qu'on soit pour ou contre la conformité dans certains cas. Mais la conformité et la clarté que propose le modèle français attirent de très, très gros acteurs. Ces très gros acteurs créent des solutions qui sont mainstream et qui sont très utilisées. Alors, sur la finance décentralisée, je ne me prononcerai pas. Mais d'un point de vue des solutions centralisées, du développement crypto et donc de l'adoption du plus grand nombre, parce que les gens passent par cette porte, je pense que la France a une carte à jouer, parce que politiquement, je suis surpris de comment ça avance.
Moi, je me demande quand même si on n'a pas une vision particulièrement positive là depuis quelques semaines, aussi à cause de ce qui se passe aux États-Unis et notamment du flou réglementaire qui existe aujourd'hui avec la SEC, dont on parle d'ailleurs sur ce plateau régulièrement. En fait, s'il n'y avait pas ce flou-là, on serait probablement beaucoup moins optimiste et on se dirait que tout se passe.
Quand je me compare, je me rassure. Quoi.
Mais n'insultons pas l'avenir parce qu'on n'est pas à l'abri d'un virement de situation et de changement de position suite à ce que les États-Unis vont faire. Rappelons quand même que on s'attendait à ce que la SEC prenne position face à Coinbase. C'est le tribunal qui a demandé une réponse en 10 jours. La SEC a quand même répondu, je vais le traduire très simplement, on ne prendra la pression de personne et on prendra le temps qu'il nous faut pour répondre. En gros, pour faire très très simple.
Et donc l'incertitude va perdurer.
Ouais, et peut-être même très longtemps, à croire que ça en arrange certains.
La France, justement, donc tente de tirer les marrons du feu et de s'imposer sur la carte mondiale du Web 3. Hier, le gouvernement a annoncé une initiative pour soutenir alors le métavers français. Et puis on a cette autre initiative française qui voit le jour, le Cube 3. C'était cette semaine. Vous y participez d'ailleurs, Owen. C'est quoi le Cube 3 ?
Alors, c'est une initiative qui est poussée par un acteur local qui s'appelle WeForge, mais également par le média Cryptost, que vous connaissez. On voit Valentin très souvent sur ce plateau. En l'occurrence, c'est un objectif d'incubation et d'accélération, en deux phases. Des jeunes projets Web 3 qui vont se faire incuber et donc qui vont avoir de l'aide au setup, au début de leur activité. Quand je parle de setup, je parle d'un setup bancaire, qui peut être compliqué quand on est de la crypto-monnaie, de connexion avec des personnes qui sont expertes du domaine ou qui ont une expertise dans le domaine en particulier de la start-up. Également un réseau, que ce soit un réseau de communication, que ce soit des réseaux de relais, mais également des réseaux d'investisseurs, parce que quand on développe un projet crypto, on a besoin de ressources et on a besoin de financement. Et ce sont des ressources que peuvent attribuer justement WeForge et également Cryptost pour ces jeunes initiatives. On parle également de 800 mètres carrés au cœur d'Angers. C'est un super lieu, c'est vraiment sympathique. Et pour le coup, Cryptost a contacté beaucoup de personnes qui sont plus ou moins connectées dans l'écosystème. J'ai été contacté pour être justement advisor de certaines initiatives, mais il y a eu par exemple Marc Zeller, qui est dans le monde de la finance décentralisée, Faustine, qui est à la tête de l'Association pour le développement des actifs numériques, bref, qui vont pouvoir accompagner et donner, s'ils ont envie de le faire, à certaines initiatives, un accompagnement plus ou moins custom en fonction des besoins de cette initiative-là. Et je pense que c'est une bonne chose en France parce qu'on a besoin de multiplier ce genre d'accompagnement si on veut voir des belles pépites fleurir ici.
Et ce qui est chouette aussi, c'est que c'est à Angers, on n'est pas à Paris. Voilà, c'est l'essor des villes moyennes, de certaines villes moyennes.
C'est ça. Et puis ça rentre en plus un peu plus dans la philosophie de décentralisation, de se dire que tout n'est pas concentré dans une seule ville, même c'est tentant d'avoir tout le réseau au même endroit. C'est quand même plus intéressant et plus aligné philosophiquement avec la crypto de se dire qu'on décentralise aussi les localisations des startups.
Oui, donc ça ne fait pas trop d'ombre à Metz.
Ah oui, parce que vous êtes de Metz, vous, en Moselle. Alors qu'est-ce que fait Metz là ?
Il y a beaucoup de sociétés crypto à Metz. Hein, mais c'est vrai que pour le coup, je pense qu'à Angers, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a déjà beaucoup de monde là-bas. C'est également une assez grande ville et pour le coup, ils sont très très bien implantés localement et ils vont avoir des aides, je pense, de la région. Donc derrière cette initiative, au plaisir de voir ça évoluer.
Et c'est intéressant de voir effectivement l'essor d'un certain nombre de villes moyennes, pas toutes, ça dépend aussi du dynamisme des autorités locales, mais un certain nombre d'économistes nous disent on va parler d'une économie des cercles concentriques autour des très grandes villes à une pollinisation de plus en plus de l'activité en fonction des initiatives des uns et des autres et de la capacité des différentes villes à se transformer pour devenir attractives avec leurs forces et leurs moyens. Et c'est peut-être aussi ce qui est en train de réussir Angers, en tout cas le Cube 3 qui va voir le jour donc là-bas. Tiens, une autre thématique qu'on voulait mettre en avant. Et PDG, clair, peut parfois s'avérer rentable. Des PDG de trois différentes organisations crypto ont déclaré leurs impôts et la communauté a découvert de sacrées dépenses de la part de ces PDG.
Effectivement, c'est pas rentable pour tout le monde, mais pour eux, ça avait l'air d'être assez rentable, puisqu'on s'est rendu compte, bien sûr, qu'ils avaient de l'argent, mais on s'est rendu compte de certains de leurs investissements aussi, et notamment d'investissements dans l'immobilier, puisqu'on a appris que le patron de Curve avait acheté donc des maisons de luxe pour plus de 40 millions de dollars, le patron de MoonPay pour 38 millions de dollars également d'immobilier de luxe à Miami, et le patron de Stepn pour 15 millions de dollars d'immobilier. Donc des grosses dépenses, évidemment. Dans l'immobilier, donc pas dans la crypto là aussi. Donc forcément, tout le monde fait des hypothèses sur pourquoi est-ce qu'ils ont investi dans l'immobilier.
C'est pas de l'immobilier tokenisé, non.
C'est du vrai immobilier. C'est des villas et des immeubles de luxe, comme vous l'imaginez.
Classique.
Alors forcément, ça fait jaser. Il faut bien se rendre compte quand même que ça fait jaser là parce que eux ont déclaré leurs impôts. Il y en a probablement certains qui n'ont pas déclarés et du coup qui ne font pas jaser. Donc il faut quand même se garder d'un jugement un peu hâtif, puisque ces personnes-là font l'exercice de transparence, de déclarer aussi leurs investissements et leur fortune, y compris en crypto. Moi, je trouve pas ça choquant d'investir dans l'immobilier et pas seulement dans la crypto. Maintenant, on peut discuter évidemment du niveau de rémunération des dirigeants, du rapport entre leur rémunération et celle de leurs salariés. Mais là, c'est une question politique. Et voilà, une fois qu'on a de l'argent, on fait ce qu'on veut de son argent, bien
Pourquoi
sûr.
Pourquoi ça fait mauvais genre auprès de la communauté ON?
Alors, ça fait mauvais genre dans le plus grand tribunal du monde, Twitter, et où chacun amène de son propre point de vue et de son expertise de dire, de juger et de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas. Mais ça reste relativement intéressant parce que du coup il y a des bonnes et des mauvaises réflexions qui sortent, mais on peut faire une curation et du coup se poser quelques bonnes questions. Naturellement, il y en a qui font moins parler d'autres, hein, parce que pour le coup le CEO de Curve, qui est très connu pour investir ses propres fonds dans le développement de son protocole, a eu beaucoup moins de problèmes que certains autres, comme par exemple le CEO de Stepn, dont certains remettent réellement en cause le modèle et trouvent que justement il y a eu une valorisation anormale, notamment de certains investisseurs et également des dirigeants. De l'autre côté, pour le coup, c'est le CEO d'une plateforme à qui on reproche d'avoir fait de la communication sponsorisée en le cachant. C'est-à-dire avec un accord avec certains influenceurs, en leur demandant de réaliser de la communication, mais de ne surtout pas dire que c'était sponsorisé. Donc en fait, on voit ressortir non seulement une image sur les différents dirigeants qui ont déclaré leurs impôts, ce qui en effraie peut-être certains de déclarer également, et d'un autre côté, Twitter fait beaucoup de bruit d'un coup, et on va même rechercher... qu'est-ce qu'on pense de la structure derrière? Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'elle a fait? Et du coup, il y a un petit jugement de... En fait, on va établir le quitus moral de l'activité qui a été faite. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise? Mais on va également se poser des questions. Est-ce que s'il fait ça, c'est parce qu'il ne croit plus en son projet? S'il y croyait vraiment, il aurait conservé. Un petit peu comme un CEO d'une grande entreprise qui viendrait vendre lui-même ses actions au marché. Et du coup, il y a une analyse de première lame qui est très souvent critique sur Twitter. Mais quand on prend un petit peu de recul et qu'on lit, on peut découvrir certaines choses sur le projet et son historique. Mais on peut également se créer un propre jugement et interpréter ça, et c'est ce qui fait parfois qu'ils doivent faire très attention, parce qu'en déclarant leurs impôts, ça peut faire beaucoup de mal à leur projet, parce qu'on peut voir un signal négatif de vente et on peut se dire, si telle et telle personne se met à investir dans un autre domaine, peut-être que son entreprise de base, elle, n'est pas digne de confiance.
Owen Simonin à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. C'est vrai que sur Twitter, chacun sait tout. Hein. Tout le monde est Dieu sur Twitter. C'est merveilleux. Ça. Un monde magique. Merci Claire de nous avoir accompagnés aussi. Claire Balva, experte crypto indépendante, et Vincent Bois nous accompagner aussi pour IG.